Natacha Polony, éditorialiste à Marianne et des autres. Bonsoir Natacha.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Alain Duhamel. Avant de parler politique, du budget, de ce qui se passe entre le gouvernement et la gauche, tous les deux vous avez très bien connu quelqu'un qui adorait le débat, adorait la polémique, adorait discuter. C'est Jean-François Kahn et on a appris sa disparition aujourd'hui à Jean-François Kahn. Il avait 86 ans, Alain Duhamel. On a retrouvé les photos que l'on voit de Jean-François Kahn et vous l'avez connu. Je vais dire que la photo était encore en noir et blanc quand vous l'avez connu, Alain Duhamel.
On a une photo de vous avec Jean-François.
Voilà, Europe 1.
Bon, on y a fait des dizaines, une centaine de débats peut-être. Bon, mais c'était dans notre génération, puisqu'on a presque le même âge, dans notre génération, c'était certainement un des plus brillants, un des plus volubiles, un des plus imaginatifs, un des plus courageux, incontestablement, un des plus obsessionnels aussi. Il avait ses thèmes assez paradoxaux, quelquefois, le centrisme révolutionnaire. Bon, et en même temps, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de chaleur humaine, qui était sympathique avec les autres, quel que soit leur statut, ce qui est relativement rare. Et puis, il faut le dire, il avait une facilité intellectuelle. Moi, je l'ai vu écrire à côté de moi des articles, et puis je l'ai entendu faire des éditoriaux, etc., puis débattre avec moi. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient de ce... Moi, pour dire les choses comme elles sont, dans ma génération, parmi les journalistes écrits, mais en l'occurrence beaucoup d'audiovisuel, il est dans les 4 ou 5 quand même d'une génération.
Et même quand il était d'accord avec vous dans des débats, il arrivait à être en désaccord.
il était d'ailleurs...
Il aimait ça.
Et puis s'il n'arrivait pas à être en désaccord avec moi, il était en désaccord avec lui-même, hein, sans hésiter.
Natacha Polony, il a notamment créé Marianne.
Oui.
Et vous avez travaillé directement avec lui.
J'ai commencé comme
pas
jeune
Marianne,
journaliste.
À l'événement du jeudi.
Non, j'ai commencé comme jeune journaliste à Marianne en 2002. Donc en fait, j'ai appris avec Jean-François. Et c'est d'abord, en effet, il y a cette dimension générationnelle. Moi, quand je suis arrivée jeune journaliste, avoir en face de moi quelqu'un qui avait interviewé le prince Youssoupov, c'est-à-dire l'assassin de Rasputin, qui avait interviewé Chiang Kai-shek. Bien sûr, il a connu toute l'histoire du XXe siècle et il y est allé, il a interviewé les gens. Et puis, il y a la dimension patron de presse, l'événement du jeudi en effet, Marianne, c'est-à-dire qu'il a inventé des formes journalistiques et il était visionnaire, c'était un extraordinaire patron de presse et selon moi c'était un patron de presse formidable. Pourquoi ? Bah déjà parce que c'était l'un des rares, voire le seul, qui passait sa vie en dehors de Paris, qui allait partout, dans le moindre petit village, il organisait des conférences, il allait rencontrer ses lecteurs, il allait rencontrer les Français.
C'était pas un journaliste parisien.
Et donc, il sentait les choses, il les sentait. Et puis, il y avait cette détestation chez lui de ce qu'il appelait, et c'est le premier à avoir employé ce terme, la pensée unique journalistique. Il ne supportait pas le conformisme. Quand vous disiez qu'il pensait en permanence contre les autres, contre lui-même, en fait, ce qu'il détestait,
il pensait contre la pensée unique.
C'était la facilité qui fait que, par souci d'être bien vu par les confrères, on ne dit pas les choses. Et donc, lui se battait contre ça. Et au nom d'une idée, alors moi, le centrisme révolutionnaire, je peux vous l'expliquer. C'est-à-dire, son idée, c'était qu'au cours du XXe siècle...
Si j'avais pu le comprendre, ça aurait été fait depuis un demi-siècle.
Selon lui, le XXe siècle avait montré qu'il y avait d'un côté le capitalisme qui avait mis l'argent au centre, de l'autre le communisme qui avait mis l'État au centre, et il voulait une révolution copernicienne qui remette l'homme au centre. C'était pour ça qu'il croyait en cette idée d'une révolution dans ce sens-là. Et avec l'idée que la France crevait du clivage gauche-droite vu comme une guerre de religion. C'est-à-dire, en gros, l'autre en face est toujours un salaud. Et lui, il estimait qu'on n'avait jamais tort sur tout et que donc il y avait des choses intéressantes à prendre de tous les côtés. Et je peux vous le dire, on a eu des désaccords, lui et moi, des désaccords violents sur certains points. Mais ça, je pense qu'il avait parfaitement raison.
On a relevé... Dans le long hommage que vous lui avez rendu, que vous avez écrit aujourd'hui, Natacha Polony, on a relevé une petite phrase. Marianne a perdu son père et la France a perdu son enfant le plus turbulent, ce que vous avez écrit. Jean-François Kahn était de ces esprits géniaux qui n'entrent dans aucun des cadres prévus. Et puis Laurent Geoffrin, qui était un ami de longue date aussi de Jean-François Kahn, qui a écrit ces quelques lignes. Jean-François était l'ami parfait. Il incarnait la quintessence du journalisme, passionné de tout et curieux du reste.
Ça, je suis d'accord avec cette phrase. Oui.
Et brillant à la radio, vif et caustique à la télévision.
À la télévision, il était long, hein, quelquefois. On n'a plus exagéré.
Mais dans le journal aussi, il écrivait la moitié du journal à lui tout seul.
Quand il démarrait, avant qu'il soit arrêté, il fallait savoir qu'on ne pouvait pas retenir sa respiration.
Hein. Jean-François écrivait la moitié de Marianne à lui tout seul, sous différents pseudonymes, et notamment l'un qui était Thomas Vallière, l'autre Serge Maury,
François Darras,
et il avait un jour poussé la logique jusqu'à écrire un article qui était signé Thomas Vallière avec François Darras.
Magnifique.
Heureusement qu'Internet existe, si vous voulez retrouver Jean-François Kahn, vous avez toutes les vidéos à disposition, parce que ce n'est pas qu'un journaliste, c'était un amoureux de la bonne chair, des bons vins,
et un grand spécialiste de la chanson française.
Et l'opérette, c'est une culture extraordinaire.
Oui. Alors ce soir, puisqu'on est en plein débat, on a une pensée pour Jean-François Kahn. Alors venons-en à notre discussion, justement Alain Duhamel, avec le projet de budget de l'État. Il a été adopté au Sénat en première lecture, il va arriver à l'Assemblée nationale. C'est le PS qui est maître du jeu.
Alors je dirais oui, mais oui, dans la mesure où à partir du moment où il a repris son autonomie par rapport au nouveau Front populaire, il a changé de catégorie et effectivement il a le pouvoir non pas de gouverner, mais de laisser gouverner ou d'empêcher de gouverner. Je dis mais parce que pour que ça dure, pour que ça soit confirmé, il faut de la cohésion au Parti socialiste. Or, il y a deux lignes potentielles. Deux, il faut une forme d'intrépidité pour arracher des vraies concessions visibles et réelles, pas du trompe-l'œil. Trois, il faut être capable d'une forme de cohésion difficile qui consiste à dire on oblige le gouvernement à changer pour ne pas changer de gouvernement, on oblige le gouvernement à changer, ou autrement on change le gouvernement, mais on ne fait pas aujourd'hui le contraire de ce qu'on a fait avant-hier. Autrement dit, il faut arracher des changements, mais pas mettre le gouvernement par terre après l'avoir mis, en réalité, en route. C'est lui qui a permis le gouvernement de... C'est le Parti Socialiste qui a permis... le gouvernement de Bayrou, c'est lui qui peut à n'importe quel moment l'arrêter. Dans un cas, il a retrouvé un pouvoir, dans l'autre, il apparaîtrait comme, si c'était à court terme, dans 6 mois, je dirais autre chose peut-être, mais il apparaîtrait comme l'ingénieur du chaos.
Alors, c'est un sujet très intéressant, l'état du Parti Socialiste aujourd'hui, parce qu'on s'était habitué à voir le Parti Socialiste décrépir petit à petit, disparaître, et notamment sous le jeu des procès en trahison et en impureté qui lui étaient intentés par Jean-Luc Mélenchon. Et là, il y a eu de fait un tournant. Mais ce tournant complique la donne. Pourquoi ? Parce que des familles dans l'actuel Parti Socialiste, on peut même en distinguer jusqu'à 5, au moins. C'est-à-dire entre ceux qui sont en fait totalement macronistes, même s'ils ont un peu raté le coche, ceux qui roulent pour Raphaël Glucksmann et qui croient qu'il y a un avenir, ceux qui sont derrière Olivier Faure, ceux qui croient qu'il ne faut surtout pas se détacher du NFP, ceux qui roulent derrière, et puis surtout... François Hollande qui roule pour lui-même. Vous voyez, et il y a toute cette constellation. Premier point intéressant.
De taille très inégale,
mais François Hollande compte pour beaucoup.
Ça, je suis d'accord, non, mais quand je dis de taille très inégale, je veux dire pour chacun des segments.
Je plaisantais, Alain. Mais je pense, premier point, que ce qui est intéressant, c'est que enfin, le Parti Socialiste a compris que c'est dans le fait de ne pas censurer immédiatement qu'il existait. Et on les a vus tout revigorer, les socialistes. Et ils ont arraché des éléments, des concessions. C'est un bras de fer permanent, mais ils obtiennent des choses, ce qui prouve qu'en politique, ce n'est pas dans le refus absolu et dans le fait de camper sur ses positions que l'on pèse.
Olivier Faure a dit « il y a la gauche qui travaille ». et la gauche qui braille. La gauche qui travaille, c'est la gauche socialiste, la gauche qui braille, ce sont les Insoumis.
Bon, alors, la gauche qui braille, elle existe, je ne vais pas vous dire le contraire. La gauche qui travaille, la production intellectuelle du Parti Socialiste depuis quelques années n'a pas été très visible, honnêtement. Bon, là, il renaît quand même, il retrouve un pouvoir qui n'est pas le pouvoir, mais qui est un pouvoir. Mais pour le retrouver, je suis d'accord sur ce point tout à fait avec Natacha, son pouvoir existe, si j'ose dire, à condition qu'il ne l'exerce pas, c'est-à-dire le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort, mais sa difficulté, son objectif, mais ça peut être sa méthode et ça peut être aussi son ascension, c'est non seulement d'arracher des concessions, mais d'arracher des concessions significatives, de savoir le montrer et sans que ce soit de l'artifice.
Donc il y a un axe
disons les choses, le risque, c'est d'être intelligemment dépensier.
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est forcément de la dépense sociale. Mais il y a un axe Bayrou-Hollande qui s'est mis en place, les papis font la résistance.
Pour l'instant, il y a des intérêts conjoints. Mais si on veut... Si en fait on estime que les papis font de la résistance, il faut en ajouter un autre. C'est Jean-Luc Mélenchon.
C'est votre édito, votre éditorial aujourd'hui.
Mon éditorial, c'est sur justement cette espèce de dimension un peu déprimante dans le paysage qu'on vient de dresser, c'est-à-dire le fait que on a le réveil de François Hollande et de Jean-Luc Mélenchon et de leur petite guerre d'égo. Parce qu'en fait, ces deux-là sont en train de préparer 2027. Ah
ben regardez, la une aussi de la Tribune dimanche.
Bien sûr.
On va la revoir. Voilà. Les socialistes ont la clé jusqu'en 2027. On peut s'imaginer à quoi ils pensent en même temps, François.
Mais bien entendu.
Oui, mais c'est vrai.
C'est très clair dans l'entretien, en effet, qu'il donne à la Tribune dimanche. Or, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que vous parliez, Alain, à juste titre, du fait que ça fait assez longtemps que le Parti Socialiste n'a pas pensé. Et, de fait, je ne crois pas que François Hollande ait tiré véritablement les leçons de son échec et qu'il ait compris exactement quelles ont été les impasses de la politique qu'il a menée. Et je crois que c'est vrai pour l'ensemble des socialistes. Il n'y a eu aucune analyse l'abandon total de la réflexion sur les conditions de la production, ce qui pourtant est quand même le fondement d'un mouvement socialiste. C'est-à-dire la question de savoir où est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, en protégeant quels travailleurs. Ça n'a pas été fait. Le Parti Socialiste est contenté depuis des décennies de dire on accepte le marché, c'est très bien, mais nous, on redistribue un petit peu plus. Or, on en est toujours là.
Pardon, Alain, je voudrais vous poser la question directement. François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, qui sont d'ailleurs pour un départ à la retraite plus court que 64 ans, il ne serait pas temps qu'ils partent à la retraite ?
Non.
Non.
Non. Jean-Luc Mélenchon, on en pense tout ce qu'on en veut. Mais c'est une personnalité incroyable comme on n'en a pas 150. Alors, il y a des côtés exaspérants.
Il nous manquerait, c'est ce que vous
dites. Non, mais il y a des côtés exaspérants.
Non, mais il apporte des choses.
Il représente quelque chose. Et puis, alors, lui, contrairement à beaucoup d'autres, il réfléchit.
Il travaille.
Il fait des propositions. Il est non seulement cultivé, mais il a sa cohérence. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est ma tasse de thé, que je suis d'accord avec ce qu'il raconte, ni avec sa façon de le raconter. Mais il existe, il représente, il incarne une gauche de rupture. Mais après tout, quand on repense à ce qu'ont été les gauches de rupture dans les décennies précédentes, je crois qu'il n'y en avait pas un seul qui l'approchait intellectuellement, hein. Bon, François Hollande, c'est le plus fin, le plus intelligent, le plus habile, il comprend énormément de choses. Il a mené deux politiques différentes quand il était président. La première politique que je n'ai pas beaucoup aimée, qui se traduisait, c'est pas pour ça que je ne l'ai pas beaucoup aimée, c'est parce que je trouvais que ça manquait de perspective, d'imagination et de construction, mais qui était un matraquage fiscal presque sans précédent. La deuxième, qui a commencé 2 ans plus tard...
Qui ressemblait à celle qu'on suit de mener...
Que Natacha ne partage pas, ce qui est tout à fait son droit, mais qui était cohérente, qui était, si j'ose dire, une politique de l'offre humaine. C'est-à-dire prenant en compte les catégories qui en ont le plus besoin. Et cette politique-là, elle n'a pas échoué, bien qu'une grosse partie du Parti Socialiste, lui, a tout fait pour qu'elle échoue. Ça s'appelait, à l'époque, on ne l'a pas oublié, les frondeurs.
Hollande Mélenchon, la retraite pour bientôt. Parce que c'est leur guerre personnelle qui recuite aussi entre les deux depuis le congrès du Parti Socialiste.
Voilà, mais après, la
culture. Peut-être qu'ils parasitent le débat aussi.
Et qui empêche peut-être le renouvellement s'ils trouvaient d'autres leaders à gauche.
Ce n'est pas une question d'âge, puisqu'en effet, la seule question, c'est est-ce qu'il y a du travail, de la réflexion intellectuelle, de la pensée politique. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. En revanche, et c'est pour ça que je soulignais la question de la capacité à prendre du recul, à comprendre les échecs. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'ils ont compris ce qui s'est passé, pourquoi Jean-Luc Mélenchon réussit l'exploit d'être considéré par beaucoup de Français comme plus dangereux que Marine Le Pen, et pourquoi François Hollande a réussi l'exploit de tuer la gauche au point qu'elle est ultra minoritaire dans le pays. Ça mériterait quand même un tout petit peu d'introspection.
Merde. Il y a une gauche de rupture qui est trop de rupture et une gauche social-démocrate qui n'est peut-être pas, qui n'a pas toutes les qualités des sociaux-démocrates.
Merci Natacha Polony, merci Alain Duhamel.